Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Comment légiférer pour protéger l'océan et sa biodiversité ? Avec Denis Duclos.
Traité de Versailles, conférence de Yalta, tout le monde connaît des textes décisifs posant des limites et des frontières entre états terrestres. Mais qui connaît Montego Bay, texte essentiel pour la protection de l'océan ? Sans doute pas grand monde et c'est bien dommage, alors essayons de combler cette lacune avec Denis Duclos, le directeur des relations européennes, internationales et ultramarines du Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors on ne peut protéger que ce que l'on a clairement défini. Et aussi saugrenu que cela puisse paraître, je vais vous demander de nous présenter l'océan. Dites-nous les services écosystémiques qu'il nous rend et les risques que notre modèle de développement fait peser sur lui au point qu'on doive donc le protéger.
Parler de l'océan, c'est avant tout souligner son importance. Il est une donnée bien connue. L'océan mondial couvre 71% de la surface de la Terre. Ce qu'il est peut-être moins, c'est que l'océan est également le moteur d'une part importante de l'activité humaine. Plus de 80% du commerce mondial en volume s'effectue par voie maritime, selon l'Organisation mondiale du commerce. Les câbles sous-marins permettent d'acheminer près de 99% du trafic total de l'Internet. Citons également le fait que le secteur des pêcheries et de l'aquaculture emploie, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, près de 60 millions de personnes dans le monde. On le voit donc, les écosystèmes marins et la biodiversité marine assurent la subsistance et le bien-être d'une part importante de la population mondiale, dont 50% habitent à moins de 200 km d'un littoral. Revers de la médaille, l'océan encourt de nombreux risques dus aux pressions anthropiques d'une part et d'autre part aux appétits de certains États suite aux conséquences du changement climatique sur certaines routes maritimes.
Donc l'océan est au cœur de l'activité humaine et de son appétit, mais c'est bien lui qui en paye le prix ?
Oui, absolument. Les pressions anthropiques sur l'océan sont en effet de plus en plus fortes, mettant en péril notamment la biodiversité qu'il renferme. La surpêche, par exemple, a entraîné la quasi-disparition de la morue dans les grands bancs de Terre-Neuve, aire de prédilection de cette espèce jusqu'à la fin des années 60. L'acidification de l'océan entraîne également pour de nombreux organismes marins comme les coraux, les moules, les huîtres, des difficultés pour fabriquer leur squelette ou leur coquille calcaire. Citons également les différentes pollutions que l'océan subit, dont une très large part provient d'activités humaines sur les littoraux et les territoires qui bordent les espaces marins. La pollution de l'océan est également issue des territoires sur lesquels les hommes exercent leurs activités. Le changement climatique ouvre également de nouvelles routes maritimes autour de l'Arctique et ces espaces désormais libérés des glaces aiguisent les appétits de certains États. La question des détroits polaires canadiens, par exemple, formant le passage du Nord-Ouest, désormais libéré de leur glace une partie de l'année, suscite un regain d'intérêt pour cette route maritime entre l'Europe et l'Asie, entre l'Europe et le Pacifique. La raison ? Tout simplement le raccourcissement très sensible de trajet qu'elle permettrait en comparaison du transit par le canal du Panama ou le passage au Cap Horn. On peut également mentionner des rivalités dans d'autres parties du monde entre États concernant les espaces maritimes. Parfois depuis des décennies, les tensions en mer de Chine autour des îles Spratly ou dans l'océan Indien autour des îles Éparses sont quelques exemples. Face aux conséquences des pressions anthropiques de plus en plus intenses, il est donc apparu essentiel de réguler l'activité humaine sur l'océan, sur sa surface, mais également verticalement dans ce qu'on appelle la colonne d'eau et également sur les fonds marins, tout en respectant un principe fondamental, celui de la liberté de navigation, énoncé dès le début du XVIIe siècle par le juriste hollandais Grotius dans son ouvrage « Mare Liberum ».
Alors si vous me permettez, on peut adapter une expression bien connue en disant que la liberté de naviguer s'arrête nécessairement là où commence celle des autres. Aussi, question, comment est-ce que le droit international de la mer dépasse l'axiome de Grotius pour encadrer les déplacements maritimes ?
Alors, durant plusieurs décennies, c'est en effet le principe de la liberté de navigation qui a prévalu. Les États s'arrogeant le droit de contrôler toutefois une largeur de 3000 nautiques depuis leur littoral. Cette coutume se fondait sur le principe selon lequel, et je cite, « le pouvoir de l'État finit là où finit sa force », que Cornelius van Binkerschoek, président de la Cour suprême de Hollande, avait énoncé dès 1702. Cette distance de 3000 nautiques correspondait à la portée d'un boulet de canon. Après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, les pays et gouvernements de l'époque vont se réunir à plusieurs reprises pour tenter de mettre en place des règles juridiques pour réglementer les activités humaines en mer. Ces différentes réunions vont aboutir à l'élaboration de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite Convention de Montego Bay, en 1982. Cette convention, qui en quelque sorte opère au partage de la mer, constitue désormais la clé de voûte de tout le dispositif juridique international concernant l'océan et la mer. Certes, la coutume et la jurisprudence constituaient des sources de droit, mais la convention de Montego Bay constitue une synthèse de celle-ci et des conventions déjà existantes à la date de son adoption. Son champ d'application est vaste et couvre l'ensemble de l'espace marin et de ses utilisations, y compris la navigation et le survol, l'exploration et l'exploitation des ressources, la conservation des ressources halieutiques, la protection et la préservation du milieu marin et bien entendu la recherche scientifique marine. Très schématiquement, avec la Convention de Montego Bay, plus on s'éloigne du littoral, du rivage, plus précisément de la ligne de base, c'est le terme consacré, moins l'État côtier dispose de droits souverains sur la surface de la mer qui le borde, sur la colonne d'eau de celle-ci et sur le plateau continental qui prolonge son territoire sous la mer.
On l'entend avec vous, le texte de Montego Bay, il est fondamental. Donc je vais vous demander de nous attarder encore un petit peu dessus. Est-ce que vous pourriez passer en revue les zones maritimes qu'il définit pour régir l'accès aux différentes eaux du globe ?
Alors, je vais en présenter quatre. Tout d'abord, les eaux intérieures, dans lesquelles les baies, les rades, les ports sont inclus. Il y a une assimilation totale de ces eaux intérieures au territoire de l'État qui y exerce ainsi sa pleine souveraineté. On parle de souveraineté sur des eaux territoriales. Ainsi, l'État côtier a le droit de fermer l'accès de ces eaux intérieures aux navires étrangers. Deuxième zone qui mérite une attention particulière, la mer territoriale. Il s'agit de la portion de mer qui s'étend jusqu'à 12 000 nautiques à partir de la ligne de base. Pendant des siècles, cette mer territoriale était d'une largeur de 3000 nautiques. Elle a donc été multipliée par 4 suite aux négociations et ne sera finalement remise en cause que par quelques États. Au titre des prérogatives de l'État côtier sur sa mer territoriale, citons le fait que la pêche professionnelle soit exclusivement réservée à ses nationaux. De même, si l'État côtier a l'obligation de laisser s'exercer le droit de libre passage inoffensif des navires étrangers sur cette zone, il peut en interdire l'accès à tout navire s'il considère que celui-ci peut troubler son ordre public ou constitue une menace pour son milieu marin. Citons désormais la zone économique exclusive. Celle-ci s'étend sur une surface de 200 000 nautiques depuis la côte, soit 180 000 nautiques depuis la limite extérieure de la mer territoriale. Dans cette zone, au titre de ses obligations de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques, dont celles halieutiques, l'État côtier fixe notamment ce que l'on appelle le volume admissible de capture des poissons qui s'y trouvent, c'est-à-dire les quotas de pêche, le cas échéant espèce par espèce, et peut autoriser d'autres États à exploiter une partie du volume admissible. Enfin, la quatrième zone et celle qui correspond au plateau continental, les États côtiers ont juridiction sur les ressources de leur plateau continental, c'est-à-dire le fond marin correspondant à l'extension sous-marine du territoire continental de leur territoire, pour explorer et exploiter ces ressources naturelles. La limite du plateau continental est fixée à 200 000 marins de la côte. Au-delà de cette distance, ce qu'il est intéressant de connaître, c'est que toutes les ressources de ces grands fonds marins et du sous-sol sont considérées comme patrimoine commun de l'humanité, gérées par la communauté d'État au sein d'une autorité que crée la Convention de Montego Bay, en l'occurrence l'Autorité internationale des fonds marins. Outre cette nouvelle instance, la Convention de Montego Bay instaure le Tribunal international de la mer et la Commission des limites du plateau continental. Elle s'attache également à déterminer les régimes juridiques des détroits internationaux et celui des eaux archipélagiques, comme celle de l'Indonésie ou des Philippines, dont la configuration est éminemment singulière.
Alors on l'entend avec vous, ce texte est très exhaustif, d'où la question, est-ce que toute la protection maritime est assurée par la seule convention de Montego Bay, ou est-ce qu'il y a d'autres textes en renfort ?
La convention de Montego Bay n'est en aucun cas le seul texte qui tente de préserver la biodiversité et les milieux marins. La convention de Canberra sur la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique date par exemple de 1980. La convention Calmar, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, est applicable à toutes les populations de poissons, mollusques, crustacés et oiseaux de mer rencontrés au sud de la convergence antarctique. Elle s'inscrit dans le prolongement de la convention de Washington qui prévoit dès 1959 que seules les activités scientifiques sont autorisées en Antarctique. D'autres organisations régionales des pêches ont été mises en place par des pays ayant des intérêts en matière de pêche dans une zone géographique spécifique. Certaines organisations sont chargées de l'ensemble des stocks de poissons d'une zone donnée. D'autres se concentrent sur des espèces hautement migratoires comme le thon, évoluant au sein de zones géographiques beaucoup plus vastes. Citons également les conventions de mer régionales. Elles ont été signées pour identifier des menaces qui pèsent sur l'environnement de leur zone maritime et fixent des objectifs de préservation. Citons à ce titre la convention Oslo-Paris, dite convention OSPAR, pour l'Atlantique Nord-Est, la convention de Barcelone pour la Méditerranée, la convention de Carthagène pour la région de la Grande Caraïbe. Enfin, citons également la convention sur la diversité biologique, dont nombre de décisions concernent la biodiversité marine et côtière, comme la lutte contre les pollutions plastiques, contre les pollutions sonores, contre les prises accessoires, et instaure également ce qu'on appelle les aires marines d'importance écologique ou biologique.
La convention de Montego Bay, qui est si importante, elle date de 1982, soit plus de 40 ans déjà. Qu'est-ce qu'on fait de plus aujourd'hui pour protéger l'océan, alors qu'on le sait menacé dans le monde entier ?
Ah, il est important de mentionner le fait qu'au début du mois de mars 2023, un projet d'accord au titre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, donc Montego Bay, sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, c'est-à-dire en haute mer, a été adopté par consensus lors d'une conférence intergouvernementale. Ce projet d'accord entrera en vigueur dès que 60 États l'auront ratifié. Afin de remplir ses missions, ce nouvel accord prévoit notamment la possibilité, en cas d'absence de consensus, de créer des aires marines protégées en haute mer à la majorité des trois quarts des pays concernés, ce qui constitue une remarquable avancée. Le partage équitable de la valorisation de ces ressources issues de la haute mer fait également l'objet de plusieurs clauses de cet accord. Donc on voit bien effectivement, avec cet accord, que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la biodiversité sont intrinsèquement liées, désormais. Je voudrais simplement ajouter le fait que, diplomatiquement, cet accord constitue par ailleurs une très belle victoire pour le multilatéralisme, alors que ce dernier est remis en cause par certains États. Il me paraissait important de terminer sur cette note.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce vertigineux retour depuis Grotus jusqu'à Montego Bay, en espérant évidemment que le consensus arrive le plus vite possible. Merci beaucoup, Denis Duclos.
Dans cet épisode, vous venez d'écouter Denis Duclos, directeur des relations européennes, internationales et ultramarines du Muséum national d'histoire naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et création collective. Avec le soutien du Crédit Agricole et de la Financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast. «